La semaine passée, nous avons regardé un thème qui revient fois après fois dans cette lettre, le thème de la joie. Nous avons parlé du besoin de se réjouir en Jésus-Christ, dans toutes circonstances, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. Aujourd'hui, nous allons commencer à regarder la lettre elle-même. Et donc, il faut se rappeler que Philippiens, quand vous ouvrez vos Bibles au livre de Philippiens, que Philippiens est une lettre. C'est une lettre. Et toutes les lettres suivent un format spécifique. Si ce soit Madame ou Monsieur au début, ou ma chère Jeanne, je ne sais pas quoi. Après, il y a une formule standard à laquelle nous adhérons. Nous mettons normalement la date, je crois, au-dessus, puis le nom ou titre du destinataire. Et après vient le corps de la lettre, et il n'est qu'à la fin que nous la signons et que nous mettons notre nom. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués, ou simplement « je t'aime », suivi de votre nom. Alors, toutes les lettres des époques reculées ont également suivi un format spécifique, mais ils étaient différents d'une autre. Aujourd'hui, normalement, pour découvrir celui qui a écrit la lettre, vous devez regarder la fin de la lettre. Mais dans l'Antiquité, la toute première chose que la personne écrivait, c'était le nom de l'expéditeur. Il a été suivi après des noms des destinataires, s'il y en avait plusieurs, ou un seul peut-être. Et puis venait enfin le corps de la lettre. Nous avons un exemple qui vient même de la Bible, en Daniel chapitre 4. Nebuchadnezzar, roi, vous voyez, c'est l'expéditeur, c'est celui qui écrit la lettre. Son nom, son titre. Et puis les destinataires, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, vraiment c'est à tout le monde, hein, cette lettre. Et puis la salutation, que la paix vous soit donnée avec abondance, et puis après ça vient le corps de la lettre. Donc l'ouverture standard des lettres dans la période hellénistique, qui est la période de Paul, qui est la période de Philippiens, était également composée de trois composants. Il y avait le nom de l'expéditeur, le nom ou les noms des destinataires, et puis il mettait normalement le mot « kareim » qui voulait dire « salutation ». Salutation. Alors, Paul écrit des lettres avec les normes du jour, mais Paul n'est pas simplement un auteur des lettres anciennes, n'est-ce pas? Il est un chrétien. Et il n'est pas seulement un chrétien, c'est un théologien. Et donc, tout ce qu'il écrit a de la signification. Et une des choses qu'il fait dans chaque lettre, nous allons le voir la semaine prochaine encore, est d'enrichir la salutation avec la révélation merveilleuse de Jésus-Christ, en changeant le kareim, qui voulait dire salutation, avec un petit jeu de mots, au mot charis, qui veut dire quoi ? Grâce. Grâce. La grâce de Dieu. Donc, notez avec moi l'ouverture de cette lettre en Philippiens. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, tels sont les expéditeurs, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, tels sont les destinataires. Et voici maintenant la salutation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors si vous voulez créer un plan de la lettre, vous marqueriez le verset 1 et 2 simplement comme la salutation. Et aujourd'hui, nous aurons seulement le temps de considérer le verset 1. Je promets d'essayer de progresser plus rapidement dans les semaines à venir. Mais notez avec moi ce premier verset. Les expéditeurs de cette lettre se décrivent comme étant des quoi ? Des serviteurs. Et les destinataires à Philippe sont décrits comme des quoi ? Des saints. Et donc, je veux prêcher sur ce thème, serviteur et saint. Les lettres dans le Nouveau Testament comportent un tiers du Nouveau Testament. Donc, parmi les 27 livres du Nouveau Testament, 21 livres sont des lettres. Et donc, elles sont arrangées dans notre Bible selon l'auteur, la longueur, et puis les destinataires. En premier lieu, nous avons 13 lettres, toutes écrites par Paul, et puis arrangées selon leur taille, la plus grande aux plus petites. Donc nous avons Romains, qui est la première parce que c'est la plus longue, et puis nous terminons avec Tite et Philémon parce que ce sont les lettres les plus courtes. Ils sont arrangés par l'auteur, et puis par longueur, et puis par destinataire. Donc nous avons 1 et 2 Corinthiens ensemble, 1 et 2 Timothée sont ensemble, parce qu'ils sont au même destinataire. Et puis après ces 13 lettres de Paul, nous avons encore 8 lettres qui suivent, et eux, ils sont baptisés des noms de leurs auteurs, hébreux exceptés. On ne dit pas Paul 1, Paul 2, Paul 3, Paul 4, jusqu'à Paul 13. Eux, ils ont les noms des destinataires, mais les 8 lettres qui suivent, on dit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean ou 1 Pierre, 2 Pierre parce que c'est le nom de l'auteur. Et eux aussi, ils sont divisés et arrangés selon leur taille, du plus long encore au plus court. Et donc, il faut savoir comment comprendre ce genre de littérature, les lettres anciennes, les lettres du premier siècle. Et les lettres ou les épîtres, parce que le mot épître veut dire simplement quoi ? Lettres, d'accord ? Donc on peut les utiliser l'un pour l'autre. Les lettres ou les épîtres étaient une forme de communication très très commune, et beaucoup de ces lettres anciennes sont préservées jusqu'à nos jours. Par exemple, Cicéron a toujours 776 lettres qui existent actuellement, d'une longueur de 22 mots pour la plus courte, à 2530 mots pour la plus longue. Nous avons 124 lettres de Sénèque, de 149 à 4134 mots de longueur. Et les lettres de Paul sont en moyenne 1300 mots de longueur. Mais vous avez la lettre aux Romains qui contient 7114 mots, la plus longue de toutes ces lettres. Et toutes les lettres de Paul, ou toutes ces épîtres, sont écrites aux assemblées, aux individus. Et pour la plupart, ce sont des correspondances qui ont été écrites en réponse de certaines questions spécifiques ou des problèmes qui lui ont été apportés. Ce que cela veut dire, c'est que ces lettres ou ces épîtres de Paul ne font qu'une partie d'un dialogue prolongé. Il y avait des conversations, il y avait des lettres qui allaient, qui revenaient, et voici une des lettres parmi un plus grand dialogue. Et donc il est utile que quand nous lisons les lettres du Nouveau Testament, nous nous rappelions que nous sommes en train de lire le courrier de quelqu'un d'autre. C'est un peu comme si on allait chez le voisin pour ouvrir son courrier, pour voir ce qu'on lui écrivait. Parce que le titre dans votre Bible est correct quand il indique que c'est l'épître, qui signifie simplement une lettre, de Paul, aux Philippiens, ou à Tite, ou à Timothée. Donc un élément fondamental pour comprendre ces lettres qui nous parvient du premier siècle, et de bien comprendre les destinataires, d'un côté, et puis l'auteur de ces lettres aussi. Par exemple, regardez le chapitre 3, si vous êtes en Philippiens, regardez le chapitre 3, et puis le verset 2, où il dit, prenez garde au quoi ? Prenez garde au au chat ou au chien ? Au chien, vous voyez ça ? Prenez garde au chien. Comment comprenons-nous cet avertissement si nous ne connaissons rien de l'auteur, ni des destinataires, ni des circonstances qui entourent la composition de cette lettre ? Il faut comprendre ce qu'il a écrit, l'époque, les circonstances, les destinataires, pour bien se comprendre ce qu'il veut dire quand il dit « attention au chien ». Donc Dieu voulant, nous apprendrons plus de Paul et des Philippiens pendant notre étude de cette lettre, mais nous sommes confrontés là au début, si nous revenons au chapitre 1, avec un ensemble de descriptions un peu bizarres et plutôt dépareillées qui ne peuvent pas être négligées. L'auteur, c'est un serviteur et les destinataires, ce sont des saints. Alors depuis quand est-ce que les serviteurs écrivent des lettres aux saints ? Et donc je veux considérer cette salutation selon ces trois composants principaux. D'abord les serviteurs, les expéditeurs. En second lieu les saints, les destinataires. En troisième lieu la salutation la semaine prochaine, la grâce et la paix. D'abord, regardez les expéditeurs ou les serviteurs. Notez verset 1, s'il vous plaît. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Le mot grec, doulos, traduit comme serviteur ici dans notre Bible, dénotait dans le monde grec du jour de Paul un esclave. Son utilisation dans la forme trouvée ici signifiait d'être complètement soumise à l'autorité de quelqu'un d'autre. Et le verbe qui vient de ce nom doulos, le verbe douléo, voulait dire d'être possédé par un autre, ou d'agir ou de se conduire comme une personne complètement assujettie à un autre, pour effectuer les fonctions d'un esclave, d'être complètement obéissant à un autre. Nous pourrons le traduire simplement comme esclave. Esclave. Et comme aujourd'hui, vous savez, les gens de ce jour étaient impressionnés par des titres. Si vous avez jamais reçu une lettre commerciale de quelqu'un, d'une compagnie, ou vous avez peut-être écrit une lettre vous-même, presque sans exception, à la fin de la lettre, le nom est suivi d'un titre, directeur du magasin, ou assistant technique, ou ingénieur chimiste, ou vice-président du marketing, ou je ne sais pas quoi, ils ont toujours un titre. Ces titres que nous nous donnons sont normalement liés à nos métiers. Alors, est-ce que ça sonne impressionnant? Paul, esclave. Paul, esclave. Voilà mon titre. Alors laissez-moi vous assurer que ce titre aurait été aussi étonnant dans le temps de Paul qu'il est aujourd'hui. Et donc nous pouvons dire d'une part que cette désignation de soi, de Paul, en tant qu'esclave, communiquée aux Philippiens, sa soumission totale à la volonté d'un autre. Mais Paul n'hésite pas d'expliquer que son esclavage n'est pas dans le royaume physique, mais c'est dans le royaume spirituel. Vous voyez ça? Il est esclave de Jésus-Christ. Donc c'est ça que nous devons comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire d'être esclave de Jésus-Christ? Parce qu'en réalité, c'est un titre glorieux, car il signifie un changement de maître. Paul avait toujours été esclave, mais il n'avait pas toujours été l'esclave de Jésus-Christ. Savez-vous que selon la Bible, tout le monde ici, même aujourd'hui, est esclave. Et la Bible dit que si vous n'êtes pas l'esclave de Jésus-Christ, vous êtes esclave du péché, et personne ne peut devenir esclave de Jésus-Christ ou un serviteur de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il reconnaisse que dans sa nature, par nature, il est un esclave du péché. En Jean chapitre 8, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave, c'est le même mot ici, est esclave du péché. Vous êtes esclave du péché. En Romains 6, c'est le même thème qui revient. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, doulos, notre mon corps, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui qui vous obéissait. Soit, voici les deux options, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors vous dites, je suis l'esclave de qui? Ben, demandez-vous, est-ce que vous avez obéi le péché ou le Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire l'obéissance qui conduit à la justice? Il l'explique dans le prochain verset, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave, voici le mon corps du péché, vous avez obéi du cœur la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. La règle de doctrine, la bonne nouvelle, l'évangile. Et le verset 20 dit, lorsque vous étiez esclave du péché, encore la même idée revient, esclave du péché. Maintenant vous êtes esclave de la justice et de la doctrine et de l'obéissance qui conduit à la justice. Dans l'Antiquité, il y avait trois manières qu'une personne pourrait devenir un esclave. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup d'esclaves. On dit qu'à Rome, plus de la moitié des habitants à Rome étaient des esclaves. D'abord, on pourrait devenir un esclave par la conquête, capturé et asservi par un ennemi. Il nous rendait, nous mettait en esclavage. En second lieu, une personne pourrait devenir un esclave par naissance, parce que l'enfant d'un esclave était toujours quoi ? Pas plus qu'un esclave. Et puis, en troisième lieu, une personne pourrait, ça se passait souvent, pourrait devenir un esclave en raison d'une dette. Incapable de payer leur dette, les gens devaient se vendre, souvent même leurs enfants, dans l'esclavage. On ne pouvait pas faire faillite dans ces jours-là, ça n'existait pas. Et la Bible enseigne que nous tous, même tous ceux qui sont ici ce matin, nous devenions esclaves du péché, plus ou moins de la même façon. La Bible indique que nous sommes esclaves par naissance. Nous sommes même nés dans le péché. Puisque nos parents étaient esclaves du péché, nous le sommes aussi. David a dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu même dans le péché. » Ce verset n'indique pas que l'acte de mariage par lequel David a reçu sa vie était le péché. Mais tout ce qu'il veut dire là, c'est qu'il n'a jamais eu un moment dans sa vie, même avant sa naissance, où il n'était pas pécheur. Donc nous sommes pécheurs, nous sommes esclaves du péché par naissance. Nous y sommes tous. Sauf si vous avez des parents parfaits, alors vous avez peut-être échappé à ce péché. Mais nous sommes également esclaves du péché par la conquête. La Bible dit que le péché règne réellement sur nous. Et là, je peux simplement faire appel à votre expérience. Qui parmi nous n'a pas senti la puissance du péché en train de nous contrôler, de nous pousser, de nous commander, comme si elle avait cette force de nous vaincre, de régner sur nos vies? C'est pourquoi David a prié à Dieu de ne pas laisser le péché dominer sur lui. C'est le mot qu'il utilise en Psaume 19. Et le Proverbe, chapitre 5 et verset 22, parle du pécheur qui est saisi par les liens de son péché. Voici un pécheur, il est saisi par les liens de son péché. Mais nous sommes également esclaves par dette. Vous savez, il y a une dette à payer et nous ne pouvons pas le payer. Puisque nous avons péché contre un Créateur saint, nous avons tourné le dos à son Fils parfait, pur et divin, nous avons violé la loi de Dieu, tant innombrable, notre péché nous endette d'une dette immésurable devant la loi de Dieu. Et le seul salaire juste qui peut être donné en échange pour notre dette au péché ou du péché, la Bible indique, c'est quoi ? Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort ici n'est pas la séparation de l'âme du corps seulement, mais la séparation de l'esprit de Dieu pendant l'éternité. Donc jusqu'à ce que nous reconnaissions que nous sommes par nature, par naissance, par conquête, par dette, asservis au péché, nous ne pouvons jamais devenir esclaves de Christ. Il faut réaliser que nous avons un maître, que le péché règne sur nous pour pouvoir changer de maître. Nous sommes esclaves du péché. Le péché a ou a eu réellement la maîtrise sur nous. Jésus a dit aux gens de sa génération, « Vous avez pour père le diable. » Nous étions des esclaves de la loi, incapables de payer la dette pour nos crimes contre la loi de Dieu. Nous avons été condamnés à la mort. Et je vous assure qu'il n'y a aucune liberté dans cette condamnation. Mais la question demeure, comment devenir libre? Parce qu'un esclave ne pouvait jamais dire à son maître, vous savez, j'ai décidé de lâcher mon boulot, je pars en 15 jours, je m'excuse, mais il n'y a pas assez d'avantages, je vais changer de maître. Ça ne pouvait pas se faire. Mais il y avait quand même plusieurs manières qu'un esclave pouvait devenir libre, même dans les temps de Paul. Il pouvait peut-être gagner sa liberté par un acte héroïque, par exemple sauver la vie de son maître. Il pouvait acheter s'il avait assez d'argent. où la liberté pourrait lui être offerte par son maître ou achetée par quelqu'un d'autre qui avait assez d'argent et moyens suffisants pour l'acheter hors de l'esclavage. Peut-être quelqu'un dans la famille ou quelqu'un qui l'aimait, qui était proche de lui. Mais quand on veut être libéré de notre esclavage du péché, il y a seulement une façon. Nous ne pouvons pas l'acheter, n'est-ce pas? Parce que le salaire que nous obtenons est une mort juste et méritée. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire pour l'acheter. Nous ne pouvons pas le gagner par un acte héroïque qui va impressionner le Seigneur Dieu, parce que même nos œuvres justes et bonnes sont comme des chiffons sales et pourris, la Bible dit. Surtout quand on le compare à la pureté et la sainteté de Dieu. Donc la réponse doit se trouver en dehors de nous-mêmes. Effectivement, 1 Corinthiens 7, verset 23 nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Pour que nous puissions être rachetés de l'esclavage du péché, ça coûtait très cher, très très cher. Mais ce n'est pas nous qui avons payé ce prix. Il y a seulement une manière. Notre liberté du péché doit être rachetée par celui qui seul peut payer le prix du péché, le prix qui exige la loi. Et qu'est-ce que la loi exige-t-elle? Est-ce que la loi serait-elle apaisée avec de l'argent ou de l'or? Autrement dit, notre rédemption a-t-elle pu être réalisée par l'argent, par exemple? La loi de Dieu serait-elle contente avec le paiement d'une amende que Dieu paye dans notre faveur, dans notre place, et puis il règle notre compte? Quel est le prix exigé par la loi? C'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons été liés, enchaînés dans le marché aux esclaves, le marché du péché, et notre liberté est venue seulement à un grand prix. C'est pas parce que nous-mêmes, nous avons une valeur en soi. Ah, voici un très beau esclave, il faut payer cher pour lui. Non, c'est pas tout ça. C'est parce que nous avons accumulé une dette immésurable qui a dû être complètement remboursée. C'est pour ça que ça prend un si grand prix. Alors, c'est quoi ce grand prix? Ben, 1 Pierre nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par exemple, par de l'argent, ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Alors c'est quoi? Mais, regardez ceci, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est comme ça qu'on est racheté. C'est avec ce prix-là, le sang précieux de Christ versé sur la croix. Et à cause de ce sang précieux de Christ qui a été pendu sur la croix pour payer la dette de nos péchés, Paul peut écrire aux Romains et il peut leur dire, encore en Romains 6 pour revenir, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave, notre mot du péché, ah oui, vous y étiez avant, mais vous avez obéi du cœur la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi, libéré du péché maintenant. Vous êtes devenu esclave de justice. Voyez, esclave du péché, libéré, affranchi pour devenir esclave de la justice. Mais maintenant, dit le verset 22, étant affranchi du péché, libéré du péché et devenu esclave, même mot de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et vous savez ce qui est le verset qui vient juste après? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le quoi? Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout le monde est né esclave du péché, mais on peut être libéré, affranchi de cet esclavage pour devenir esclave de la justice et de Dieu. Et ça se passe comment? Vous voyez ce processus entier par lequel nous sommes libérés de la puissance et la pénalité du péché est un don gratuit de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu, un cadeau qui ne peut pas être acheté. Un cadeau ne peut pas être gagné. Autrement, ce n'est plus un don. Un cadeau peut seulement être reçu. Et la vie éternelle, c'est un don. L'absence de ce péché qui règne dans votre vie vient comme cadeau. Il ne vous reste qu'à le demander. Quand vous comprenez l'esclavage, don duquel Christ rachète les croyants, ce n'est pas une honte, c'est un honneur de pouvoir s'appeler un esclave de Jésus-Christ. Et ce mot doulos, esclave, communiqué dans le monde séculaire, le monde de Paul, la soumission, la subordination, mais vous savez, les chrétiens ont ajouté un autre sens à ce mot, une autre dimension, celle de la dévotion. Dévoter à quelqu'un. Être esclave de Christ signifie d'être complètement consacré à lui. Parce que ce n'était pas une obéissance forcée, ce n'était pas un esclavage qu'il regrettait. C'était volontaire, une dévotion volontaire. C'est un peu comme l'esclave dans l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il existait des esclaves, mais Dieu avait pourvu pour que chaque esclave puisse devenir libre après un certain temps. Soit il arrivait à payer sa dette, soit au bout de plusieurs années, le maître devait lui laisser aller libre. Mais parfois, il y avait des esclaves qui ne voulaient pas partir. Ils aimaient leur maître, leur famille était. Ils ont dit, je ne vais pas partir, je vais rester ici toute ma vie. Et donc s'il disait, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un pinceau et l'esclave sera pour toujours à son service. Parce qu'il a choisi de lui-même. La marque qu'il portait à l'oreille était le signe qu'il voulait être réellement et pour toujours un esclave à son maître, par son propre choix. Et c'est la même chose avec Christ. Ce mot esclave n'a jamais été employé que dans un sens positif. Et il faut aussi dire que Paul ne s'est jamais décrit comme étant l'esclave de l'Église, ou l'esclave de Rome, ou de n'importe quelle autre personne ou établissement. Il l'a employé exclusivement pour son rapport avec Jésus-Christ. Il l'a employé pour exprimer sa dévotion à Jésus-Christ. Paul, en écrivant cette lettre, est en état d'arrestation dans une maison à Rome. Il est maintenant prisonnier de Rome, littéralement lié à un garde romain. Mais quand il écrit cette lettre, il se considérait principalement un esclave à son Seigneur. Paul était un esclave de Jésus-Christ. Mais alors, en deuxième lieu, les destinataires, qui sont-ils? Paul se dit esclave, mais les chrétiens habitant à Philippe, il appelle des saints. Encore un titre curieux, hein, tandis que je crois que peu se baisseraient au point de se faire un esclave, peu seraient si présomptueux de se passer pour un saint. Alors, qu'est-ce que c'est après tout un saint? J'ai cherché ce mot sur le site du Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, et voici les définitions que j'ai trouvées. En premier lieu, en parlant de Dieu, qui est par essence la perfection et la pureté absolue. Voilà, c'est bien. Deuxièmement, en parlant d'une créature humaine, celui qui a été reconnu saint par l'Église catholique, ou qui témoigne d'une haute élévation spirituelle en vivant selon les lois de la morale et de la religion. Bon, ils n'ont toujours pas eu la définition biblique. Qu'est-ce que c'est ce mot dans la Bible? Le mot grec agios, comme son équivalent hébreu dans l'Ancien Testament, se rapporte à quelqu'un ou quelque chose qui est placé à part, ou consacré, c'est un bon nom. De consacrer quelque chose veut dire de le placer à part pour une utilisation spéciale. Et malheureusement, ce titre que le Nouveau Testament applique à chaque chrétien est appelé saint, un saint de Dieu, est venu incorrectement à être associé à la sainteté personnelle, c'est-à-dire, comme dit le dictionnaire, à une haute élévation spirituelle, en vivant selon les lois de la morale. Mais c'est une fausse compréhension de l'utilisation biblique qui veut dire d'être placé à part. Donc, être saint ou profane, entre guillemets, n'a rien à faire avec le fait d'être un saint de Dieu. Et le mot se rapporte à la consécration. Quelques exemples. Ça devient très clair parce que, par exemple, dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'il y a des objets, il y a des objets même qui sont sanctifiés, qui sont rendus saints, qui sont mis à part. Et bien sûr, un ustensile n'a aucune sainteté personnelle. On ne va pas dire c'est une très bonne casserole, sainte casserole, on ne dit pas ça. Mais ils n'avaient pas une sainteté personnelle en eux, mais ils étaient mis à part, consacrés, par exemple, pour être utilisés dans le tabernacle ou dans le temple, et à cause de ça, ils étaient saints, mis à part. Et du Nouveau Testament, on peut prendre l'exemple de Jésus-Christ en Jean 17, où il dit « Je me sanctifie moi-même pour eux ». Voilà, c'est Jésus qui parle. Donc question, est-ce que Christ pouvait se rendre plus saint ou plus parfait qu'il était auparavant? Et la réponse est bien sûr que non. Il était toujours parfait, toujours sans tâche. Pourtant, il pouvait se mettre à part, se consacrer, même sa vie, pour l'œuvre spéciale de payer la pénalité de nos péchés. Et donc, il s'est sanctifié, il s'est rendu saint pour eux, c'est-à-dire pour nous. Et c'est dans cette même façon que la Bible appelle les chrétiens les saints. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que les autres, loin de là. C'est que nous sommes devenus une race élue, comme dit un Pierre, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous voyez ça? Une nation sainte, un peuple acquis, élu par Dieu, une nation sainte, afin que nous puissions maintenant annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Comme Israël dans l'Ancien Testament, voici l'Église de Dieu dans le Nouveau Testament, mise à part, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, une race élue. Vous savez, la réputation peut-être de l'Église corinthienne, pourtant les Écritures les appellent des saints par vocation dans le premier chapitre, une référence à leur appel au salut. Et donc tous ces croyants sont saints, pas parce qu'ils sont quelque chose en eux-mêmes, et là nous pouvons le regarder dans notre texte même, c'est pas parce qu'ils sont saints en eux-mêmes, mais parce qu'ils sont, notez le texte, en Jésus-Christ. Voyez, c'est pour ça qu'ils sont saints. Un musulman ne parle pas d'être en Mohammed. Un bouddhiste ne parle pas d'être en Bouddha. Un mormon ne prétend pas être en Joseph Smith. Ils le vénèrent, ils les adorent peut-être, ils suivent leurs enseignements. Mais ils ne sont pas en eux. Mais les saints sont en Christ. Seulement un chrétien peut prétendre être en Christ. Et il ou elle est saint en résultat de ce nouveau rapport avec Christ. Ce n'est rien que le chrétien fait, mais c'est en raison de ce que Christ fait. Ça part de notre union avec lui, notre union avec Jésus-Christ. Nous sommes unis à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. C'est pourquoi Paul a pu dire en Galates 2, verset 20, « Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et moi, je suis en Christ. » L'expression « en Christ » dans le Nouveau Testament se trouve 29 fois. L'expression « en Jésus-Christ » ou « en Christ Jésus » se trouve 50 fois. Et puis la phrase « dans le Seigneur » 45 fois. Donc c'est une vérité glorieuse du Nouveau Testament qui revient fois après fois après fois. D'être en Jésus-Christ, d'être dans le Seigneur, en Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être en Jésus, d'être en Christ, d'être dans le Seigneur? Réfléchissez un peu. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans Jésus? Je crois qu'on arrive à mieux comprendre cette expression quand on considère que tous ceux qui sont maintenant en Christ étaient, dans le passé, en Adam. Christ est comparé à Adam. Il faut comprendre l'un pour pouvoir comprendre l'autre. Adam était une vraie figure historique, mais il était, par le choix de Dieu, dans le plan de Dieu, désigné pour représenter la race humaine dans sa totalité. Et ce qu'il a fait a produit des conséquences pour l'ensemble de la race humaine. La Bible indique en parlant d'Adam en Romains 5, verset 12, c'est pourquoi par un seul homme, et il parle maintenant d'Adam, par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il indique dans un autre endroit que tous ceux en Adam meurent. Donc, du moment de votre conception, vous avez éprouvé les conséquences d'être en Adam. Si vous n'êtes jamais fatigué ou malade, c'est les conséquences d'être en Adam. Plus tard dans ce même chapitre, verset 18, il dit « Ainsi donc, comme par une seule offense, c'est-à-dire celle d'Adam, suivez ça si vous pouvez, une seule offense, ce que Adam a fait, la condamnation a atteint tous les hommes. » De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc Adam a fait quelque chose et tout le monde qui est en Adam reçoit les résultats. Christ a fait quelque chose et tout le monde qui est en Christ reçoit les résultats. Comme le verset prochain dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Christ, beaucoup sont rendus justes. Puis 1 Corinthiens 15, ça devient très clair, où il dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Il y a quelqu'un peut-être ce matin qui dit, moi je trouve que c'est pas juste. Je meurs parce que Adam a péché, c'est pas juste. C'est pas juste que je dois subir les conséquences du péché d'Adam. Eh bien, si vous ne voulez pas accepter ça, vous ne pouvez pas accepter non plus le fait que, puisque Christ a obéi, vous pouvez recevoir les conséquences de ce qu'il a fait. Vous voyez, on peut diviser le monde entier en deux groupes. C'est pas par nationalité, c'est pas par race, c'est pas par langue, c'est soit en Adam, soit en Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont en Adam, ils meurent. Et tous ceux qui se trouvent en Christ, ils revivront. Alors la question pour nous aujourd'hui, où sommes-nous? Où sommes-nous? Parce que soit vous allez suivre Adam, soit vous allez suivre Jésus-Christ. Notez s'il vous plaît Philippiens chapitre 3 et verset 9, où Paul dit qu'il voulait être trouvé en lui, c'est-à-dire trouvé en Jésus, devant Dieu un jour, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Donc arrêtez là pour un instant. Regardez ce que Paul dit. Le saint Paul, il dit que quand il se trouve devant Dieu, il ne veut pas que ses justices lui suivent. Il ne veut pas que Dieu regarde à ses justices. Alors pourquoi pas? Parce que Paul savait que sa propre droiture, sa propre justice ne le sauverait pas. Je me rappelle une fois que quelqu'un m'a dit, vous savez, je ne suis pas parfait, mais je suis quand même un type sympa. Et vous avez peut-être entendu des phrases comme ça. Et vous savez ce que ces gens disent? Quand ils disent, vous savez, oui, c'est bon, mais j'ai vraiment pas besoin de la justice de Jésus-Christ. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est, en gros, je suis satisfait avec ma propre nature, avec ma propre justice. Je pense qu'il me suffira. Bon, je ne suis pas parfait, bien sûr, personne n'est parfait, mais, bon, j'ai assez quand même pour plaire à Dieu. Ah, mais pas Paul, hein. Pas Paul. Il ne voulait pas se tenir devant Dieu et être trouvé dans sa propre droiture ou justice. Cela ne marchera jamais. Il va être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec cette justice, regardez, mais avec celle, la justice qui s'obtient par, comment? Par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Soit vous allez vous tenir devant Dieu avec votre propre justice qui vous serviront à rien, soit vous allez vous tenir devant Dieu avec la justice qui vient par la foi, la justice de Dieu, c'est-à-dire la justice que Jésus a méritée pendant sa vie sur la terre et sa mort sur la croix. Avec cette justice qui s'obtient par la foi, vous présentez cette justice à Jésus-Christ. Donc pensez, qu'est-ce que vous direz si aujourd'hui vous devez vous tenir devant Dieu et ils vous disent, pourquoi pensez-vous pouvoir entrer au ciel? Est-ce que vous allez faire appel à votre propre justice? Ou est-ce que vous allez faire comme a fait l'apôtre Paul même? Seigneur, regarde pas ça. Regarde pas ça. Regarde la justice que j'ai eue par la foi en Jésus-Christ. Ta justice qui m'est donnée par la foi. Vous savez que vous pouvez avoir l'assurance que vous pouvez vous tenir devant Dieu quand vous mourrez et être déclaré juste. Jamais ou jamais à cause de votre propre droiture, malgré le fait qu'elle soit peut-être très impressionnante, mais parce que vous tenez là en Christ et sa justice vous sauve. Ça, c'est l'appel à tous ceux qui ne sont pas encore en Christ. Mais pour ceux qui sont déjà en Christ, et je parle aux chrétiens maintenant, il faut comprendre qu'être en Christ n'est pas seulement notre position et notre union relationnelle avec Dieu, avec Christ. Ça parle aussi de la sphère ou du domaine dans lequel ou laquelle nous vivons nos vies entières. Juste quelques exemples, vous n'avez pas besoin de les chercher, mais de vivre en Christ, ça parle de la vie entière. Par exemple, chapitre 1, verset 26, parle de notre réjouissance qui devient plus abondante en Jésus-Christ. Notre joie, c'est en Jésus-Christ. Chapitre 3, verset 3, nous sommes de nouveau appelés à se glorifier en Jésus-Christ et de ne pas mettre notre confiance dans la chair. Chapitre 4, verset 7, nous indique que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées, quoi ? En Jésus-Christ, là dans ce domaine, si vous invitez la vie, passez la journée, dans ce domaine, en Jésus-Christ. Verset 19 du chapitre 4 nous indique que tous nos besoins seront pourvus selon sa richesse avec gloire en quoi ? En Jésus-Christ. Et le prix, chapitre 3, verset 14, de la vocation céleste, le but vers quoi nous courons, est encore en Jésus-Christ. Et finalement, le chapitre 2, verset 5, nous avons lu tout à l'heure, nous devons adapter la même attitude les uns vers les autres, qui étaient où? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc nous voyons que nos vies entières, dans leur intégralité, chaque décision, chaque attitude, chaque émotion doit être contrôlée par ce fait. Nous sommes en Christ. Ces chrétiens étaient des saints, ils étaient des saints en Christ, mais ils étaient des saints également à Philippe. Il faut noter ça, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Bon, il n'y a rien d'étrange à ce sujet, on pourrait le lire sans même y réfléchir, mais ça dirige nos pensées aux deux réalités, deux mondes différents dans lesquels un chrétien vit. Il est en Christ, et puis le même mot est utilisé pour être en Philippe. Bon, on dit à Philippe, mais c'est le même mot. En Christ, en Philippe, ou à Bordeaux, ou à Pessac. Donc ce chrétien habite en Christ, mais dans le monde aussi. Le chrétien n'est jamais appelé à laisser le monde pour habiter, par exemple, dans un monastère retiré. Si vous ne pouvez pas être un saint à Philippe, la ville païenne, vous ne serez jamais un saint dans le désert isolé. Et pourtant bien que nous habitons ici-bas, notre citoyenneté est dans le ciel. Et de la même façon que votre accent ou certaines habitudes révèlent à d'autres votre pays d'origine, ainsi notre style de vie doit démontrer au monde que nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes des pèlerins qui se dirigent vers une ville meilleure, nous devons habiter la semaine à Bordeaux, à Pessac, à l'université, au travail. Mais rappelez-vous que n'importe où vous vous trouvez, vous êtes toujours en Christ aussi. Et c'est deux réalités qu'il faut garder en tête. Et puis en conclusion, cette lettre a été écrite au saint, en Christ, à Philippe. Et puis vous voyez là à la fin du verset 1, aux évêques et aux diacres. Bon, puisque c'est là, il faut en parler. Je vous encourage d'écrire près ou au-dessus de ce mot évêque, si c'est votre Bible, que vous avez le mot responsable, ou le mot surveillant, ou peut-être le mot même dirigeant. Responsable est peut-être le mieux. C'est ce même mot qui est trouvé en Actes 20, verset 28, où Paul dit « Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde, ou sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, ou responsable, ou dirigeant. » Donc notez que c'est Dieu, pas les membres, certainement pas un individu, mais c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous a établi. C'est le Saint-Esprit qui choisit les responsables de l'Église. C'est le mot « épiscopos » qui est employé en Acte 20, et aussi en Pierre, comme un synonyme pour le mot « ancien ». Ces hommes sont aussi désignés dans la Bible comme des pasteurs, ou des bergers, ou un pasteur enseignant, ou bien sûr des évêques, comme nous voyons ici. Donc, si vous voyez un responsable, ou évêque, un ancien, ou un pasteur, c'est la même chose, c'est la même personne. C'était les hommes donnés par Dieu pour mener l'Église. Et vous voyez que l'Église avait ces deux fonctions principales, et tous les deux sont mis au pluriel. Responsable et diacre. Il n'y avait pas qu'un seul responsable, il n'y avait pas qu'un seul diacre. Et selon Acte 6, le rôle principal du diacre était un service pratique, plutôt que de prêcher, d'enseigner, de surveiller. Mais les diacres, comme les anciens, doivent répondre à des hautes normes morales qui sont décrites en 1 Timothée et en Tite. Et aucune église ne peut fonctionner correctement sans la surveillance des responsables, et sans le service pratique des diacres. La Bible reconnaît ces deux fonctions dans l'Église locale. Bon, la lettre de Paul est une lettre d'un esclave de Jésus-Christ, et c'est écrit au saint en Jésus-Christ. Vous voyez ça? Mais l'esclave était également un saint, et les saints étaient également des esclaves. Le chrétien est tous les deux. Il est esclave de Jésus-Christ. Il est un saint en Jésus-Christ. Et vous, mes amis, est-ce que ces descriptions vous dépeintent? Est-ce que vous pouvez vous dire saint en Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ? Vous devez vous admettre que vous êtes toujours esclave du péché. Et où est-ce que vous trouverez en Christ, dans la justice qui vient de la foi en Christ, que Dieu accorde, je cite chapitre 3 verset 9, que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est comme ça qu'on obtient. La foi, c'est la clé qui ouvre la porte du ciel, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit qui travaille et agisse parmi nous pour attirer les gens vers Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait dans la puissance humaine ou avec les méthodes charnelles. Mais nous avons besoin de ton esprit et nous prions en tant que chrétiens ici, nous prions que tu agisses dans tous nos cœurs. Pour ceux qui sont déjà en Christ, qui réalisent leur besoin de vivre en Christ, toute la journée, dans toutes circonstances, à tous endroits. et pour ceux qui ne sont pas, qui réalisent leur état pécheresse, le danger dans lequel ils se trouvent, qu'ils soient sérieux par rapport à ces choses, qu'ils puissent trouver l'affranchissement, la liberté du péché et l'esclavage merveilleux de Jésus-Christ. Nous prions ces choses en son nom. Amen.